Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'oudhou billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu, en purifiant pour lui la religion en sincère, et d'établir l'office, et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la gêne, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran ce mardi soir 26 janvier de 2021. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne. Bienvenue dans le journal. Le ministre iranien des Affaires étrangères est en tournée régionale. S'est entretenu mardi à Moscou avec son homologue russe Sergueï Lavrov. Il s'est rendu à Moscou en provenance de Bakou, capitale azerbaïdjanaise. L'Iran travaille sur le développement de la technologie quantique, a souligné le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique. Le département du Trésor US applique une dérogation temporaire aux sanctions contre la première marche arrière des États-Unis face à la résistance yéménite. Manifestation en Russie. Moscou dénonce l'ingérence des géants américains de l'Internet. C'était les principaux titres de l'actualité. En voici le journal. Lors d'une rencontre avec son homologue de russe, Sergueï Lavrov, à Moscou, le ministre iranien des Affaires étrangères s'est entretenu avec lui des questions d'intérêt commun, de l'évolution régionale en ce qui concerne la question du Karabakh et également de l'accord nucléaire iranien de 2015. À son arrivée à Moscou, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, avait qualifié de très importante les relations entre l'Iran et la Russie. Mohammad Javad Zarif était arrivé à Moscou en provenance de Bakou, où c'était lundi, lors d'une rencontre avec son homologue azerbaïdjanais, avait fait part de la disponibilité de la République islamique d'Iran à prendre part activement dans la reconstruction des zones libérées du Haut-Karabakh situées aux frontières communes entre l'Iran et l'Azerbaïdjan. Mohammad Javad Zarif s'est entretenu avec son homologue azerbaïdjanais Ceyhun Bayramov d'importantes questions d'intérêt commun et des questions de régionales. Il a qualifié d'importante cette nouvelle page pour le rétablissement de la paix et de la stabilité dans la région et dans l'intérêt de tous les pays de la région.
région. Mohammad Javad Zarif a souligné que l'objectif de sa tournée régionale était en fait de contribuer à l'instauration de la paix et du calme dans la région. La balle est désormais dans le camp des États-Unis, a souligné le représentant permanent de l'Iran auprès de l'ONU, de Majid Tarté Ravanchi. La nouvelle administration américaine doit décider de poursuivre la politique de faillite de l'administration précédente ou d'ouvrir une nouvelle page, a déclaré le représentant permanent de la République islamique d'Iran auprès des Nations Unies. Dans une interview accordée à la chaîne américaine NBC, Majid Tarté Ravanchi a déclaré « La balle est désormais dans le camp des États-Unis. Ce sont les Américains qui ont quitté la table des négociations en 2018 sous l'administration Trump. Il appartient maintenant à Washington de décider s'il a l'intention de poursuivre la politique de faillite de l'administration précédente ou s'il veut ouvrir une nouvelle page. Dès qu'ils remplissent leurs obligations, l'Iran aussi reviendra à ses engagements, a-t-il souligné. L'Iran travaille sur le développement de la technologie quantique. L'annonce a été faite par Ali Akbar Salehi, le président de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, qui a déclaré, c'était lundi soir, que l'Iran avait commencé à travailler sur le développement de la technologie quantique car le 21e siècle est le siècle de cette technologie. S'exprimant lors de la cérémonie d'inauguration de la réalisation de la communication quantique en espace ouvert, Ali Akbar Salehi a déclaré que la technologie quantique est très importante et que les pays industriels avaient commencé à développer cette technologie dès le début du 21e siècle. L'Organisation iranienne de l'énergie atomique a commencé à travailler sur la technologie quantique en 2016, a-t-il déclaré, ajoutant que l'organisation était chargée de surveiller le développement scientifique à travers le monde et de donner la priorité aux technologies de pointe. Le département du Trésor US applique une dérogation temporaire aux sanctions contre le mouvement yéménite d'Ansar Allah, faisant une marche arrière devant l'axe de la résistance au Yémen. Le département du Trésor de l'administration Biden applique une dérogation temporaire aux sanctions contre Ansar Allah, entérinée début janvier par l'ancienne administration américaine. Il s'agit de la première décision de la nouvelle administration US qui coïncide avec la célébration de la journée internationale du soutien au Yémen à travers le monde. On va revenir en détail sur ce sujet dans notre commentaire politique. Manifestation en Russie. Moscou dénonce l'ingérence des géants américains de l'Internet. Les publications de l'ambassade américaine à Moscou sur les manifestations non autorisées ayant eu lieu dans plusieurs villes russes en soutien à Alexei Navalny ont été sévèrement condamnées par la diplomatie russe. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères les a qualifiées d'ingérence directe dans les affaires intérieures de la Russie. L'ambassadeur américain a été informé que la Russie considérait ces documents ainsi que les déclarations du département d'État américain comme une ingérence directe dans les affaires intérieures de la Russie, a précisé Mme Maria Zakharova. 6 soldats maliens ont été tués dans l'attaque de 2 postes de sécurité dans le centre du Mali, ont annoncé les forces armées maliennes sur leur site officiel. Selon un communiqué publié par l'armée de postes de sécurité des forces armées maliennes, à Boulkesi et à Mondoro ont été attaqués, faisant 6 morts et 18 blessés parmi les soldats maliens. Les soldats maliens Israéliens ont énergiquement réagi à ces deux attaques complexes et simultanées et ont pu faire une centaine de morts du côté des terroristes, ont déclaré dans leur communiqué les forces armées maliennes, ajoutant qu'une quarantaine de motos et un important lot de matériel militaire avaient été saisis. Eh bien, chers amis, avec cette dernière nouvelle, notre journal d'information s'achève. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Eh bien, restez avec nous. On va vous proposer dans une poignée de secondes notre commentaire politique. Yémen, le peuple s'en sort victorieux, ce dont nous vous parlerons dans notre commentaire politique. Faisant une marche arrière devant l'axe de la résistance au Yémen, le département du Trésor de l'administration Biden applique une dérogation temporaire aux sanctions contre Ansar Allah, entérinée début janvier par l'ancienne administration Trump. Il s'agit de la première décision de la nouvelle administration US qui coïncide avec la célébration de la Journée internationale du soutien au Yémen à travers le monde. Le département du Trésor US a autorisé lundi temporairement une reprise des échanges avec le mouvement de résistance yéménite d'Ansar Allah jusqu'au 26 février. Il y a deux jours, le porte-parole du département d'État américain a déclaré que Washington avait entamé un examen de la décision de l'administration de l'ancien président américain Donald Trump d'inscrire le mouvement populaire d'Ansar Allah du Yémen sur la liste noire US. Dans de nombreux pays du monde, les habitants de la capitale sont descendus dans la rue pour participer à des manifestations de soutien au peuple yéménite en souhaitant la justice. Le peuple yéménite a gagné et les agresseurs ont été vaincus. À cette occasion, un grand nombre de yéménites sont descendus également dans les rues dans 14 villes à travers le pays pour prendre part à des manifestations de masse où ils ont clamé que le siège et l'agression américains sont considérés comme des crimes terroristes. Accusant les États-Unis d'être à l'origine du terrorisme dans la région, les manifestants ont dénoncé les sanctions et la politique hostile de Washington à leur égard, ainsi que les crimes commis par la coalition d'agression saoudienne et ses alliés arabo-israélo-occidentales contre les civils yéménites, rapporte la chaîne Al-Masira. Les rassemblements populaires ont eu lieu dans le monde. De 260 organisations juridiques et humanitaires dans différents pays du monde, dont les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Suisse, ont appelé à la fin de la guerre d'agression contre le Yémen. Dans la province yéménite d'Al-Hudaïda, des milliers de yéménites ont assisté à la manifestation contre les agresseurs américano-saoudiens, brandissant des pancartes sur lesquelles figuraient des slogans anti-américains, anti-israéliens. Ils ont crié « L'Amérique est criminelle et le responsable des pires catastrophes humaines que vivent les femmes, les enfants » et les personnes âgées au Yémen. Un grand nombre des habitants de la ville de Damat, dans la province yéménite de Zala, ont assisté également aux manifestations anti-occupation à Taïz. Les manifestants ont souligné que le peuple yéménite avait tenturé d'innombrables souffrances qu'ont causé les sacrifices proches des États-Unis, ayant pris pour cible la sécurité et la stabilité du pays afin de mener à bien les plans de l'arrogance américaine.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission des débats. C'était en novembre 2015 et suite aux événements terroristes est survenu en France que le guide suprême de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khomeini, a envoyé une lettre à l'adresse des jeunes d'Europe, des jeunes occidentaux. Dans sa lettre à l'adresse des jeunes d'Europe, l'honorable Ayatollah Khomeini a souligné « Je vous demande de jeter à l'appui d'une juste conception et d'une vision profonde et en référence à des expériences amères, les bases d'une interaction juste et loyale avec le monde de l'islam. » Et l'honorable Ayatollah Khomeini, dans sa lettre à l'adresse en fait des jeunes d'Europe, a fait allusion à ces actes de terroristes dont font l'objet, par exemple, les peuples, que ce soit en France, en Irak, au Liban, en Syrie. Il a en fait de souligner toujours dans sa lettre, et je suis persuadé que seul vous, les jeunes, vous avez la capacité de tirer des leçons des événements désagréables de ces derniers jours. Bien sûr, là, l'honorable Ayatollah Khomeini fait référence aux événements terroristes survenus en France en 2015 afin de trouver de nouvelles voie pour bâtir l'avenir et d'empêcher les déviations qui ont conduit l'Occident à sa situation actuelle. Et toujours dans sa lettre, l'honorable Ayatollah Khomeini a précisé aujourd'hui, personne n'ignore le rôle des États-Unis dans la formation, le renforcement et l'armement d'Al-Qaïda. Ce groupe terroriste, les protecteurs révélés et bien connus du terrorisme Takfiri, sont constamment sur la liste des alliés de l'Occident et ce, en dépit de leur régime politique les plus arriérés, qui répriment cruellement les idées les plus avancées et les plus éclairées des démocraties dynamiques dans la région. Eh bien, nous allons avoir en fait un regard rétrospectif sur cette lettre de l'honorable Ayatollah Khomeini avec deux invités. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Alsace un juriste français spécialiste des questions internationales, Maître André Chamy. Maître Chamy, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, merci pour votre invitation et surtout pour votre accueil habituel. Et mes salutations à l'ensemble de l'équipe ainsi qu'à votre invité.
Et l'autre, merci beaucoup. Et l'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, Maître Chamy, c'est un philosophe français spécialiste des questions internationales qui est en ligne avec moi pour cette émission depuis Toulouse. Il s'agit de M. Pierre Dortiguier. M. Dortiguier, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Avec grand plaisir. Bonjour, M. Nerotine. Bonjour à tous vos auditeurs. Et vraiment, tous mes remerciements aussi pour la présence de Maître Chamy d'Alsace.
Merci beaucoup. Monsieur Dortiguier, je viens de lancer le sujet. Cette lettre qu'a envoyée l'honorable Ayatollah Khomeini, guide suprême de la révolution islamique, à l'adresse des jeunes d'Europe, c'était en novembre 2015, et suite aux événements terroristes survenus en France. Monsieur Dortiguier, quelle est en fait la valeur, l'importance en fait de cette lettre de l'honorable Ayatollah Khomeini, d'autant plus que dans sa lettre, le guide suprême de la révolution islamique avait fait en fait des précisions très très importantes sur en fait l'avenir du monde, sur l'avenir du monde de l'islam, avait mis en exergue de cette nécessité de bâtir, si vous voulez, l'avenir du monde, du monde de l'islam, du monde tout entier, avec une de juste conception et avec une vision profonde, M. Dortillier.
Justement, si on peut résumer, disons en deux mots, l'importance de cette lettre, nous dirons que l'ayatollah Khamenei, guide suprême, a voulu insister auprès des jeunes, auprès de la jeunesse, sur le fait qu'il fallait privilégier la conception des choses, le jugement, sur l'émotion ou la précipitation, comme justement nos moyens d'information ou la propagande, voyez-vous, de tous ces milieux politiques, militaires et autres ici chez nous, font pour pouvoir désorienter la jeunesse. Et qui voulait que la jeunesse voie plus loin, avec toujours en usant de la raison, sur, disons, le caractère. Il n'a pas parlé de religion islamique. Il a parlé de religion musulmane. Vous savez que le mot d'islamique est maintenant considéré presque comme péjoratif, comme islamiste, ne l'était pas du tout dans les siècles précédents. C'est une opération de propagande, voyez-vous, qui a fait que ces termes sont péjoratifs dans la presse d'aujourd'hui. Mais il a voulu, disons, que les jeunes gens regardent, la jeunesse regarde l'avenir et comprennent d'abord, justement, l'importance de la civilisation musulmane, la civilisation islamique, et que celle-ci, disons, était un fait. Un fait qui reposait sur l'existence d'État, l'existence de société, vous voyez, et que le terrorisme, auquel on donne le nom de terrorisme musulman, de terrorisme islamique, auquel on fait la chasse sous prétexte de parler ici contre je ne sais quelle forme de séparatisme et autres, sont des réalités qui sont des réalités en développement. Et ceci est vrai dans l'histoire, malheureusement on ne l'enseigne que très peu, on n'enseigne pas du tout ce qu'a été le prestige de l'Empire ottoman, ce qu'a été sa conception, ce qu'a été, disons, ce qu'ont été ses philosophes, ce qu'ont été des gens comme Avicenne, par exemple, comme je l'ai vu à Madan. Tout ceci a été mieux connu, je dois dire, dans notre génération, que ça ne l'est aujourd'hui. Et c'est très peu enseigné dans les classes, par exemple, dans les lycées, sous prétexte de ne pas parler de confession. Il ne s'agit pas de confession, il ne s'agit pas de profession de foi. Il s'agit de la réalité d'existence d'État avec lesquelles la jeunesse d'Occident doit coexister. Elle doit apprendre une coexistence, de même que l'Orient apprend à coexister avec l'Occident, comme il l'a fait du reste, disons périodiquement pendant des siècles. Or aujourd'hui, cette coexistence, sous des noms divers, est mise en cause par ceux qui veulent plonger le monde dans un chaos et faire, comme ils le disent dans une formule maçonnique connue, disons, faire sortir l'ordre d'un chaos, mais pas d'un chaos ancien, d'un chaos permanent, c'est-à-dire faire reposer une dictature mondiale, voyez-vous, qui efface les nations, qui efface les familles, qui efface les religions même, ou ce qu'on, pour moi, il n'existe qu'une seule religion, mais disons, les formes de confession doivent être effacées et que l'instinct religieux lui-même doit être brimé. Ceci a déjà été annoncé par des mises en garde de plusieurs de nos philosophes. Nous en avons, M. Heidegger, le disait, et ceci, la jeunesse aujourd'hui l'éprouve. Et ce qu'a voulu, je terminerai sur ce point, ce sur quoi a insisté, qui fait la valeur de cette lettre, c'est, je le reprends, le fait que le guide suprême met en garde contre les réactions momentanées, voyez-vous, les réactions qui sont aveugles. Il veut que la jeunesse ouvre les yeux. Il a privilégié la jeunesse parce qu'il pense que celle-ci, disons, est moins empreinte de préjugés, moins alourdi par les préjugés que ne le sont ceux qui ont connu parmi nous dans plusieurs générations de Français, par exemple la guerre d'Algérie qui essaie de confondre, disons, des réalités, qui mettent sur le compte de l'islamisme ou de l'islam leurs propres méfaits, etc. Enfin, je n'insiste pas sur ces aspects sombres de notre période, mais il a bien insisté, l'Ayatollah Khamenei, sur le fait que c'est ce développement, cet éveil de l'islam, voyez-vous, qui se marque, qui est progressif, n'est-ce pas, qui est sensible, qui doit être arrêté par, qui est arrêté par la volonté justement de ces cercles terroristes qui sont répandus en Occident, qui manœuvrent l'opinion occidentale, voyez-vous, et qui, disons, terrorise en réalité en premier lieu les Occidentaux en disant que la source de ce terrorisme, c'est la situation islamique. Pas du tout. C'est-à-dire que c'est un fantôme, une caricature qui est le fruit de leur laboratoire, qui est justement, disons, qui a comme résultat, comme, de même qu'un mauvais vaccin crée, empoisonne l'organisme, si je puis dire. Eh bien, on peut dire que là, la propagande occidentale, la propagande américaine, au fait de ces milieux, disons, à l'intérieur des États-Unis, comme il y en a à l'intérieur d'autres États, de tous les États, à mon avis, de ce qu'on appelle l'Occident et même de l'Orient, jusque dans l'Orient russe, vous avez des forces qui sont anti-religieuses, anti-musulmanes, anti-chrétiennes, voyez-vous, et qui veulent, un abaissement de l'humanité, et deux, une sorte de lutte des civilisations, mais qui ne soit pas momentanée, qui serait constante. Et c'est cela que, justement, le guide suprême a voulu arrêter. Il a demandé, je termine dessus, il a demandé à la jeunesse aujourd'hui d'ouvrir les yeux, de ne pas être sensible à l'agitation, de réfléchir au présent et à l'avenir.
Merci beaucoup. Maître Deschamy, votre lecture, s'il vous plaît.
Avant de parler de cette lecture, je me permettrai de vous avouer une petite confidence. Lors de la première lettre adressée par le guide suprême à l'attention notamment de la jeunesse française, mais en général à la jeunesse occidentale, j'avais pris ce texte qui m'a particulièrement touché personnellement et intimement, et j'ai voulu qu'il soit publié pour qu'il touche le maximum de personnes. Et je l'ai proposé, j'ai même proposé sa publication payante sur mes deniers personnels pour que chaque citoyen, notamment en France, puisse y avoir accès, le lise et puisse bien entendu, le cas échéant, le critiquer, mais dire ce qu'il en pense avec tout l'équilibre qui se dégage de ce texte-là. Nous n'avons pas trouvé le moindre organe de presse qui ait accepté de diffuser et de publier, même de contre-payer le prix de cette publication. Pas un seul organe n'a accepté de le faire. Et ça m'a particulièrement choqué, je me disais, c'est ce que je vais expliquer à l'un d'entre eux, mais pourquoi vous ne l'acceptez pas? Parce que vous prétendez qu'il faut qu'il y ait place à tous les discours, et pourquoi pas au discours qui se dégage de la République islamique d'Iran, afin de mieux expliquer sa position, mais en même temps le regard spirituel de cette République, le regard intellectuel de cette République à travers la parole du guide suprême. La réponse était on comprend, mais on ne fait pas. Et cette phrase, ou en tout cas cette réponse, démontre qu'il y a un establishment qui empêche la propagation de ce discours, en tout cas la publication de ce discours, afin qu'il soit audible, compréhensible, et bien entendu touche les personnes auxquels ce discours se destine. Pour revenir à ce discours par rapport à la jeunesse, en réalité, il y a, à mon sens, trois axes qui se dégagent de ce discours. Le premier, d'abord, c'est de faire parler la spiritualité de la République islamique d'Iran et plus particulièrement du guide suprême par rapport au message que l'on veut diffuser. C'est-à-dire, ce n'est pas un message de haine, ce n'est pas un message de défiance, ce n'est pas un message de mise en cause de la culture qui règne en Occident, c'est tout simplement ouvrir les yeux à d'autres perspectives. Et c'est en cela le discours montre et justifie une tolérance qui vient de la République islamique d'Iran à destination du monde occidental et plus particulièrement à l'attention de la jeunesse occidentale. Le deuxième axe, c'est un appel à l'introspection, c'est-à-dire pour que cette jeunesse regarde ce que la société lui propose au prétexte d'une démocratie pour la pousser en quelque sorte à se mettre en difficulté par rapport aux autres sociétés. Et je citerai l'exemple le plus parlant, si j'ose dire, c'est la publication des caricatures sur le prophète Mahomet. On présente ça comme si c'était une leçon de démocratie, mais en réalité, ça génère de la haine des deux côtés, parce que à partir du moment où on vous dit on le fait au nom de la démocratie, les autres n'ont pas le droit de réagir, alors qu'il suffisait de regarder qu'est-ce que c'est cette liberté que l'on donne au nom de cette démocratie. C'est la liberté d'insulter, c'est la liberté d'humilier, c'est la liberté d'agresser. Qu'est-ce que c'est que cette liberté que j'appellerais gratuite et qui n'appelle que la haine de l'autre côté, parce qu'on ne comprend pas pourquoi cette culture vient agresser d'autres cultures alors qu'elle n'a rien demandé à personne. Et c'est en cela que cette liberté de croyance vient poser une difficulté par rapport à la croyance de l'autre. C'est-à-dire, je ne viens pas agresser votre démocratie, mais pourquoi votre démocratie vient agresser ma croyance, mon intimité et mon intime conviction? Et la troisième observation, c'est le troisième axe, c'est le regard du monde occidental et particulièrement de la jeunesse occidentale par rapport à l'autre partie du monde. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui par rapport à l'Iran et les menaces qui pèsent sur cette république qui ne cherche à défier personne? Qu'est-ce qui se passe par rapport au Yémen, par rapport à la Syrie, à l'Irak, par rapport à l'Afghanistan et par rapport à l'ensemble du monde musulman? Est-ce que vous avez vraiment le vrai regard et la vraie compréhension par rapport à ce monde, et vous avez tout simplement ce que vos gouvernements vous apportent comme information? C'est-à-dire, à partir du moment où on vous dit c'est un monde qui a vocation à avoir la paix, qui ne cherche qu'à avoir la sécurité, qui ne cherche à avoir je dirais la meilleure relation avec l'autre partie du monde. Et qu'est-ce qu'on vient lui apporter? On vient lui apporter les menaces, la violence, la guerre, le terrorisme et tout ce que ça comporte comme destruction culturelle, patrimoniale, religieuse, sociétale et puis bien entendu civilisationnelle. C'est-à-dire à partir du moment où vous venez agresser ces pays-là, comme ce qui s'est passé notamment en Afghanistan, en Irak, au Yémen, en Syrie, c'est l'essence même de la civilisation de ces pays que l'on cherche à détruire. Et ces pays-là, vous les comprenez comment? Vous ne les comprenez pas parce que vous les regardez qu'à travers le prisme de vos dirigeants. Et moi, je vous demande tout simplement de vous ouvrir et de regarder l'équité et avec beaucoup d'intelligence et surtout avec beaucoup d'ouverture d'esprit ce qui s'y passe. Est-ce que, et c'est, je dirais, l'exemple le plus marquant, est-ce qu'un homme normal, doté d'un minimum de bienveillance, d'un minimum d'intelligence, est-ce qu'il peut regarder ce qui se passe en Palestine en termes de massacres, en termes de destruction, en termes d'éviction de toute une population de son territoire pour en implanter une autre au prétexte que l'État d'Israël, que j'appelle moi l'antisioniste, a envie de s'installer sur votre territoire pour implanter des gens qui viennent de l'autre bout du monde? Qu'est-ce que c'est que cette équité? Qu'est-ce que c'est que cette justice? Qu'est-ce que c'est que cette égalité entre citoyens du monde? Alors que si vous avez un territoire et vous avez quelqu'un qui se trouve sur ce territoire-là, rien ne justifie que vous venez le chasser. Et regardez donc tout ce que le monde occidental impose au monde musulman et vous comprendrez ce qui s'y passe. Et c'est ce regard-là que l'on attend de vous, vous, la jeunesse occidentale, c'est-à-dire avoir un regard intelligent, un regard de critique par rapport aux décisions et qui sont prises en votre nom et surtout un regard de justice, mais la justice dans le bon sens du terme, c'est-à-dire ne pas accepter l'injustice, ne pas accepter la destruction, ne pas accepter la terreur imposée à une population qui est, par définition, pacifique, qui n'a pas cherché à agresser quiconque et qu'on vient agresser sur son propre territoire au prétexte que l'on veut changer ce monde et le reconfigurer, le restructurer, comme l'a appelé à un moment donné Condoleezza Rice, la destruction créateur, ou la démolition, moi j'appellerais créateur ou créatrice. Regardez voir ce que ça a apporté. Ça a apporté des malheurs, des drames et bien entendu une frustration de la part de cette population qui ne supporte plus ce qu'elle subit depuis un certain nombre d'années. Et c'est ça que l'on attend de la jeunesse.
Maître André Chamy, vous avez un rendez-vous juridique. J'en vous retiens, point plus. Je vous remercie infiniment d'avoir participé à notre émission. Et je vous dis bonne journée et à très bientôt. Eh bien, Monsieur Tortiguet, vous venez d'entendre les explications de Maître Deschamy. Je viens de le dire tout à l'heure dans sa lettre, l'honorable Ayatollah Khamenei a fait allusion au rôle joué par les États-Unis pour renforcer le groupe terroriste d'Al-Qaïda. Et dans une autre partie de sa lettre, l'honorable Ayatollah Khamenei précise, avec beaucoup de regret, je dois dire que ces groupes lâches, comme celui de Daesh, sont les progénitures de ces liens avortés avec des cultures à importer de l'extérieur. Si le problème était vraiment de nature religieuse, de tels phénomènes auraient dû exister également à l'époque du colonialisme. Là, l'honorable Ayatollah Khamenei souligne que le groupe terroriste de Daesh n'a rien à voir avec la religion de l'islam. Et l'honorable Ayatollah Khamenei fait allusion surtout à ce verset du Noble Coran qui considère que l'assassinat d'un seul être humain est comme, en fait, l'assassinat considéré comme l'assassinat de toute l'humanité, M. Dortiguet.
Oui, en effet, ce verset du Noble Coran dit que, si je me permets de commenter, que quand on accepte, bien sûr, de détruire un être humain, on accepte de détruire le principe de l'humanité. C'est-à-dire qu'on ouvre la porte, en fait, à des instincts démoniaques. Et c'est un peu ce à quoi nous avons assisté depuis surtout la fin de la Seconde Guerre mondiale, déjà autrefois, mais surtout à la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsque des guerres, disons, perpétuelle, a commencé par d'abord la guerre en Palestine en 1947-1949, et ensuite la guerre en 1956 contre l'Égypte, et puis ensuite avec toutes ces formes de coups d'État, vous voyez, qui marquaient la vie du Proche-Orient, et jusque bien sûr l'accroissement avec l'attaque de l'Irak, l'attaque de l'Afghanistan autrefois préparée par Brzezinski. Je soulignerai du reste, puisque nous avons cette liberté de parler ici entre nous, que l'exemple de l'Afghanistan est très important et très significatif, car celui-ci a été abattu en deux coups de cognée, comme on dit chez les bûcherons. C'est-à-dire que la première fois, c'est un coup d'État communiste, si je puis dire, qui a renversé le régime traditionnel, voyez-vous, de la monarchie afghane, et c'est sur ce premier acte communiste qu'est venue ensuite une sorte de réaction, mais contrôlée de la part de ce qu'on appelle les talibans, avec Brzezinski et autres. C'est-à-dire que nous avons eu affaire, si je puis dire, comme à des produits qu'on mettrait dans un laboratoire. C'est-à-dire que ces États, monté une fraction de la population contre une autre. C'était des choses qui étaient faites de l'extérieur, contrôlées de l'extérieur, mais qui était méthodiquement suivi. C'est-à-dire, alors, on se demande quel est le but de tout cela. Le but de tout cela, c'est d'introduire une atmosphère de lutte civile permanente, un chaos permanent à l'intérieur des États. Alors, on a essayé, on aurait pu essayer de heurter les chiites, par exemple, aux sunnites et autres, mais on essaie de diviser le plus possible la société et d'introduire, comme vous l'avez bien dit, en reprenant la lettre de Ayatollah Khamenei, d'introduire des éléments très artificiels qui n'ont pas même existé au moment de la colonisation. Nous n'avons jamais eu, par exemple, des mouvements comme Al-Qaïda ou autres, par exemple, qui, si on les prend à titre originel, par exemple, se lever contre la colonisation. Pas du tout. Au contraire, c'est cette colonisation qui a créé ces produits artificiels, et ces gens-là, d'ailleurs, ne savent qu'ils ne sont rien sans cet apport incessant qui leur est apporté. Ce sont des gens qui ont subi, comme on appelle, des sortes de lavages de cerveau. On appelle ça les moyens MK Ultra ou autres, voyez. Et ils sont nourris, sans cesse nourris, j'entends, alimentés en propagande, sont alimentés en armes, etc. Ce sont des gens qui sont souvent déracinés de leur pays, voyez-vous.
Merci beaucoup.
Qui vivent en vase clos. Et c'est ceux-là qui sont des bombes vivantes, voyez-vous. Et on essaie d'intimider, non seulement d'écraser les peuples locaux, mais d'intimider en même temps les Occidentaux. Et la jeunesse occidentale en disant, voyez, ce danger incessant en Orient, etc., vous devez craindre ceci à l'intérieur de vos propres sociétés. C'est sur cette crainte que ce, qu'une tyrannie espère se constituer durablement.
Merci beaucoup.
Je dirais non seulement en Occident, mais dans le monde entier.
Merci infiniment, M. Pierre d'Ortiguier, philosophe français spécialiste des questions internationales, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Toulouse. Merci. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, et à très bientôt.
En raison de sa belle et généreuse nature, de ses cascades, ses forêts et de sa proximité avec Téhéran, est très visité. Riz, céréales, fruits, coton, thé, tabac, canne à sucre et soie figurent parmi les produits naturels cultivés du Mazandaran. Le Mazandaran, très présent dans la mythologie et la littérature iranienne, et trouve naturellement une place de choix dans le Shahnameh, épopée écrite par le poète Ferdowsi il y a plus d'un millénaire. Et le village de Yush, où naquit le poète iranien contemporain Nima Yushic. Des conditions climatiques favorables, de magnifiques paysages et la proximité de Téhéran ont fait le Mazandaran l'une des principales régions touristiques d'Iran. Le Mazandaran est appelé le paradis perdu par les amoureux de la nature.
Ici, le Moyen-Orient. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité de la région de l'Asie de l'Ouest. L'Iran ne permettra pas au groupe terroriste de Daesh de se réorganiser. Aux côtés de ses alliés, l'Iran ne laissera pas le groupe terroriste Daesh se réorganiser, a affirmé le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh. Il a déclaré lors d'une conférence de presse avec les médias ce lundi 25 janvier que la politique régionale de l'Iran n'a pas changé. Nous pensons que le mécanisme proposé par Téhéran est une bonne initiative et qu'il dispose un bon cadre pour une coopération régionale. Si l'Arabie saoudite s'éloigne du cercle vicieux de la violence et de la coopération avec les pays extra-régionaux, et cela se reflète dans le discours et le comportement de Riyad, nous y ouvrirons grand les bras et nous prendrons des mesures plus efficaces, a insisté le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Dénonçant la poursuite des bombardements quotidiens menés par la coalition d'agression saoudienne contre le Yémen et le placement du groupe populaire d'Ansar Allah sur la liste autoproclamée américaine du terrorisme, Saïd Khatibzadeh a déclaré qu'une telle situation sape les efforts de pays. Réagissant aux informations selon lesquelles Riyad est prêt à résoudre les problèmes régionaux, le porte-parole de la diplomatie iranienne a indiqué « Pour concrétiser une telle fin, il faut du courage du côté saoudien et un changement de discours. » S'agissant de la levée des sanctions par les États-Unis, il a précisé
aucune évolution jusqu'à présent au sujet de l'accord nucléaire de 2015 n'a eu lieu. Nous avons déjà exprimé notre opposition et c'est ce que nous devons voir, c'est la levée des sanctions et l'application effective de l'accord multilatéral par les États-Unis et les autres parties. Pour Téhéran, aucun dialogue productif ne peut renouer tant que ne sont pas remplies ces conditions, a insisté le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Pour Noam Chomsky, éminent théoricien et philosophe politique de renom américain, les intellectuels libéraux US, comme les partisans de Trump, vivent dans un monde imaginaire et sont incapables de reconnaître les États-Unis comme un pays à l'avant-poste du terrorisme international. Comme beaucoup de partisans de Trump, les intellectuels libéraux américains sont prisonniers de leur imaginaire et voient en terrorisme intellectuel du gouvernement américain une sorte de puissance sûre, a déploré Noam Chomsky au micro de l'agence de presse russe Russia Today. Chomsky a ajouté, tout comme les républicains pro-Trump, qui ne peut pas accepter la défaite du milliardaire aux élections, les intellectuels libéraux américains ne peuvent pas, eux non plus, accepter cette réalité selon laquelle leur pays est un chef de file du terrorisme. La réalité est que les États-Unis ont presque tout au long de leur histoire, en tant qu'un pays indépendant, ont toujours déclenché la guerre contre les autres, a-t-il rappelé. La confrontation américaine avec le terrorisme abordée dans la politique étrangère de Ronald Reagan, le 40e président des États-Unis, visait en fait à dévier l'opinion publique mondiale de la résistance menée contre le terrorisme d'État US en Amérique centrale et en Afrique du Sud. Des dizaines de manifestations ont eu lieu ce lundi matin et après-midi dans plusieurs provinces yéménites pour protester contre la poursuite de la guerre de la coalition d'agression saoudienne contre le Yémen, une coalition qui est appuyé dans sa guerre d'agression contre le Yémen par des puissances occidentales. Le peuple yéménite va poursuivre la bataille de libération jusqu'à la fin de l'offensive pour briser l'embargo et restituer la totale souveraineté du pays et son indépendance, a écrit sur sa page Twitter le porte-parole du mouvement d'Ansar Allah, Muhammad Abdel Salam. Organiser des concerts avec quelques mouvements de protestation dans des capitales occidentales, ces rassemblements ont mobilisé des centaines de milliers de Yéménites dans 15 provinces du pays. Il y a aussi été exprimé le rejet de la décision prise par l'ex-président américain Donald Trump de placer l'organisation Ansar Allah sur la liste noire américaine. Nous n'avons pas peur des Américains et notre peuple aujourd'hui, grâce à sa résistance et sa persévérance, a prouvé qu'il est solide face aux menaces et aux agressions, a déclaré quant à lui le membre du bureau politique d'Ansar Allah, Muhammad Ali Al-Houssi, devant les manifestants de la ville d'Al-Houdaïda, et d'ajouter « La classification américaine est source de fierté pour nous. Nous sommes fiers que nous les terrorisons. » Selon la télévision libanaise d'information Al-Mayadin TV, des manifestations ont eu lieu aussi dans les provinces de Saada, Taiz, Eb, Zamar, Rimar, de Hadjar, Omran, Al-Baiza, Al-Mahouit, Marib et Al-Jaouf. En dépit des souffrances et de l'embargo, notre peuple est resté la tête haute aujourd'hui. Il renouvelle l'allégeance au commandant de la révolution pour qu'il puisse prendre la décision qui s'impose à ajouter ce aussi. À notre membre du bureau politique d'Ansarallah, Mohamed Al-Bouhaïti, a pour sa part estimé que la démarche américaine a pour but de terroriser les Yéménites, estimant toutefois que les pressions américaines seront vouées à l'échec. Selon lui, Washington joue sa dernière carte car l'équilibre des forces dans la guerre est en défaveur des forces de la coalition d'agression saoudienne. Les États-Unis, Israël et l'Arabie Saoudite étaient derrière les attentats terroristes de Bagdad, a déclaré la résistance irakienne. Le Qatar et Hezbollah en réagissant aux deux attentats terroristes qui ont ensanglanté c'était en fait jeudi dernier Bagdad. Le groupe de résistance irakien Qatar et Hezbollah a qualifié d'axe du mal les États-Unis, le régime israélien et l'Arabie Saoudite, affirmant que ces derniers avaient orchestré les explosions de Bagdad. L'axe du mal américano-israélo-saoudien a repris ses crimes abominables contre la nation irakienne en visant un marché fréquenté par les Irakiens pauvres, a souligné le Kataeb Hezbollah. Ce groupe de résistance irakien a mis en garde aussi le prince héritier des Saoudiens. Nous rappelons que nous avons déjà dit sur la décision de Ben Salman qui consiste à soutenir de nouveau les opérations barbares en Irak. Nous avons déjà mis en garde Ben Salman de ne pas jouer avec le feu, un feu qui risquerait bien d'atteindre son trône, a martelé la résistance irakienne, plus précisément ce groupe de résistance irakienne Kataeb Hezbollah. Eh bien, chers amis, si touche à sa fin cette émission, merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Thank you.
Aquí Teherán, la voz de la República.